Chapitre 3. Cette rechute dans la funeste manie n'aurait sans doute eu d'autre conséquence que de faire passer à Georges Coutreau une nuit d'insomnie, sans un incident de l'ordre le plus humble. Mais un imaginatif en état de crise, c'est le cheval en train de galoper et qu'un tronc d'arbre, un rocher, un papier volant au vent, fait soudain s'emporter d'une fuite affolée et meurtrière. Georges s'était levé, bien résolu à se dominer. Le premier regard échangé avec Berthe lui en avait montré la nécessité. « Tu es pâle ?» lui avait-elle demandé aussitôt. « Tu n'as pas bien dormi ?»« Admirablement » avait-il répondu. « Et toi-même ?»« Moi, j'ai été un peu nerveuse » avait-elle dit. « Je me suis réveillée plus de 20 fois. Il me semblait qu'on allait et venait dans la maison. » « Je n'ai rien entendu » s'était-il hâté de répliquer. C'était ses pas que la malade avait surpris, sans heureusement deviner la vérité. Le plus léger indice pouvait la lui apprendre. Le mari jaloux se donna mentalement sa parole d'honneur de ne plus permettre que la pauvre femme subît le contre-coup d'une crise qui s'en allait. Il était par trop visible qu'elle pensait, sans vouloir renouveler l'entretien de la veille, à l'effet que la visite de Fauriel avait pu produire sur lui. Cette inquiétude devait être bien réelle, car le visage du professeur Kraft, quand il fut venu ausculter sa cliente, à l'heure habituelle, exprima un certain étonnement. « Il faudra que le bain soit moins fort aujourd'hui qu'hier, » dit-il en libellant une ordonnance. « Madame n'a pas commis d'imprudence, elle n'a pas marché trop vite, joué du piano. »« Non, il y a un peu de recul. Ce ne sera rien, surtout pas d'émotion. » Cette légère aggravation des symptômes s'expliquait si Berthe cachait dans sa vie un secret sentimental et que ce secret fut une romanesque affection pour le visiteur de la veille. La chose ne s'expliquait pas moins si, n'ayant rien à se reprocher, elle appréhendait cependant un renouveau de jalousie chez Coutreau. Celui-ci s'était si entièrement repris que cette hypothèse lui vint seule à la pensée. Si le professeur Kraft, au lieu d'être un solide mais massif médecin de bain allemand, avait été un subtil médecin parisien, il aurait discerné un remords dans l'accent avec lequel le mari de sa cliente lui répondait « Elle n'aura pas d'émotion, docteur, je vous le promets. » Il n'y avait pas 20 minutes qu'il avait fait cette promesse avec toute l'ardeur de son dévouement pour sa femme, encore avivée de repentir. Après avoir conduit le docteur et accompagné Berthe jusqu'à la porte de l'établissement des bains, il s'était assis sur un des bancs du parc, devant la villa, et il s'abandonnait à cette langueur qui suit les trop longues insomnies, quand son attention fut attirée par un petit télégraphiste en train de musarder, le nez au vent, une enveloppe à la main. Il reconnut le garçon qui desservait la maison Hoffmann. Sans trop penser à ce qu'il disait, il l'arrêta et lui demanda en se nommant si ce n'était pas une dépêche pour lui. L'enfant ne fit pas difficulté de lui remettre le télégramme, qui portait bien le nom de Coutreau sur l'adresse, mais précédé de « Madame ». « Pourvu que ce ne soit pas quelque mauvaise nouvelle, » se dit Georges. « Il vaut mieux que j'en prenne connaissance d'abord. » Une telle précaution était très naturelle. Mais dans son souci de ne plus montrer de défiance à la malade, Coutreau s'était interdit même ses insignifiantes libertés, comme de regarder la suscription d'une lettre adressée à sa femme et de lui demander « Telle personne vous a écrit, que vous dit-elle » Il est vrai qu'une dépêche n'est pas une lettre. Le seul fait qu'elle ait été transmise par un employé qui a pu librement la lire lui enlève ce caractère de secret que le sel du cachet donne au plus simple billet. Après une seconde d'hésitation, Georges allait donc déchirer l'enveloppe quand une idée le saisit, qui n'était que son trouble de cette nuit, réapparut à la première occasion. Si cette dépêche était de Fauriel. Il demeura une minute peut-être, timide comme paralysé, devant cette subite poussée d'un nouveau soupçon. Cette fois, il lui fut intolérable de ne pas le vérifier, et tout de suite, d'un geste brusque et tremblant, il déchira l'enveloppe. Il crut défaillir en lisant la signature. C'était bien celle de l'homme autour duquel sa jalousie venait de se déchaîner depuis ses 18 heures. Le télégramme, daté de Francfort, était libellé ainsi. « Vous serez infiniment reconnaissant, envoyez vérifier Hôtel Ritter, si n'est pas oublié là carnet croquis. Veuillez excuser extrême indiscrétion, mes pertes seraient tellement importantes pour moi que désire mettre toute chance de mon côté. Au cas où carnet retrouvé, prière faire envoyer recommandé, adresse Paris. Encore excuse. Remerciements. Magnifique voyage. Heureux vous avoir revu. Respect et vœux santé meilleure. Maxime Fauriel. Georges lut et relut ces phrases d'une signification si claire. Il connaissait assez le célèbre artiste pour savoir que, venant de lui, cette dépêche n'avait rien que de parfaitement conforme à son caractère. Fauriel a eu beau frayer, grâce à son succès, avec la société la plus élégante, il reste et restera le bohémien qui a toujours ignoré ce que c'est que de se gêner. Il avait trouvé tout simple, passant à Nauheim, et voyant sur la liste des étrangers le nom d'une femme qu'il connaissait un peu et qu'il savait très malade, d'aller lui rendre visite et prendre de ses nouvelles. C'était là son coin de bonhomie, de cordiale et chaude nature. Il avait trouvé non moins simple, ayant constaté la disparition de son album de poche, de le faire rechercher par Madame Coutereau au lieu de télégraphier à l'hôtel. C'était le coin de sans gêne. Puis, en rédigeant sa dépêche, il avait parlé de son voyage, de sa visite de la veille, de ses souhaits pour le complet rétablissement de la malade, pêle-mêle. C'était de nouveau sa bonhomie. N'ayant jamais pensé à faire la cour à Berthe, dans laquelle il n'avait vu autrefois qu'un portrait possible, si 10 000 francs, comment eût-il deviné l'ombrageuse susceptibilité du mari ? Par quel don magique de double vue eût-il aperçu les mots inoffensifs que traçait sa plume indifférente, cheminant le long du fil du télégraphe et venant frapper dans un esprit tourmenté les touches les plus douloureuses ? Ce qui rend les jaloux si misérables, c'est que leur folie repose sur une incontestable vérité, l'infinie souplesse des amants à varier les moyens d'entente. Il est bien rare qu'une correspondance coupable ne soit pas rédigée de manière à prêter aux dénégations les plus spécieuses. La création d'un langage conventionnel est une ruse élémentaire et c'est un raisonnement élémentaire aussi pour le jaloux que de se dire « Ces phrases ont deux sens, j'en comprends un, quel est l'autre ?» Était-ce le cas pour celle que Coutereau lisait et relisait en proie à une véritable agonie d'incertitude ? Ces quatre syllabes détestées, Maxime Fauriel, rencontrées au bas du télégramme, y avaient suffi. Il y a un premier point à savoir, finit-il par se dire. L'album de croquis est-il réellement à l'hôtel Ritter ? Cette vérification, c'était 300 pas à faire. Comme cette courte distance parut grande à Georges et longue l'attente dans le bureau, tandis que le secrétaire procédait à une enquête dont le résultat négatif ne signifiait rien. Le carnet pouvait avoir été perdu ailleurs et son propriétaire se trompait dans ses suppositions. Pour Coutereau, la possibilité si simple de cette erreur n'était plus admissible et tout en regagnant la villa, il se récitait à mi-voix le texte énigmatique. Il y heurtait, il y meurtrissait sa pensée et toujours il revenait à la conclusion qui avait été l'aboutissement de toutes ses réflexions de cette nuit. Non, Berthe n'est pas sa maîtresse. Si elle l'aimait pourtant. Pour que Georges se posât une pareille question, même dans ces minutes de désarroi intime, il fallait qu'il eût laissé s'épaissir entre sa femme et lui un étrange brouillard de malentendus. C'est le châtiment de ce crime de lèse-amour qu'est la jalousie. Elle arrive à détruire entre deux êtres qui vivent ensemble ce réciproque abandon grâce auquel l'âme de l'un est transparente à l'autre. Tout dans cette délicate et fine créature démentait cette supposition qu'elle pût nourrir un sentiment romanesque pour cet arriviste aux manières tout ensemble communes et plates, aux talents vulgaires et affectés, aux ambitions si évidemment grossières qu'était Maxime. Cette idée était folle. Georges, cependant, la sentit entrer en lui à une telle profondeur qu'il comprit que, cette fois, il lutterait en vain contre elle. Il allait lui être impossible, et il s'en rendit compte, de cacher son trouble à Berthe, qu'il lui faudrait revoir dans quelques instants. Il regarda sa montre, 15 minutes. Le temps du bain était passé, celui du repos aurait passé bientôt. S'il n'était pas là, comme à l'ordinaire, auprès d'elle, lorsqu'elle retournerait à la villa, elle s'inquiéterait. Il serait donc là. Il lui donnerait la dépêche. Il devrait expliquer pourquoi il en avait pris connaissance. Elle tiendrait le papier entre ses mains. Elle lirait cette phrase qui, peut-être pour elle, avait une signification tendre. Et lui ? C'est à ce moment, et comme il se figurait cette scène par avance, avec une précision littéralement suppliciante, qu'un projet pointa tout à coup dans sa pensée, d'abord incertain et confus, puis plus net et plus net encore. Il s'entendait lui-même prononcer tout haut « Ah, ce serait le salut, je saurai !» Et il se mit à se diriger vers sa maison d'un pas rapide. Il ne calculait plus, il ne raisonnait plus. Il tenait, comme il l'avait dit, un moyen de savoir. Une autre voix tout intérieure, celle de la conscience, parlait en lui. Il se rendait trop compte qu'il n'avait pas le droit de tenter l'épreuve qu'il venait de concevoir et vers laquelle il se précipitait avec la hâte d'un criminel, en proie à ce foudroiement de la sensation qui donne à certains actes la rapidité, la certitude et presque l'inconscience des mouvements somnambuliques. Il s'agissait bien d'obéir à l'ordre du médecin maintenant et d'épargner les émotions à la malade. Coutereau avait oublié qu'elle était malade. Il ne voyait plus en elle qu'une femme qu'il aimait passionnément, des sentiments de laquelle il doutait et, encore une fois, il allait savoir. Il avait imaginé un de ces pièges d'une simplicité infaillible et formidable que les jaloux ont le génie de concevoir et l'implacable audace d'exécuter dans les transports de leur féroce passion. « Je viens d'apprendre une affreuse nouvelle, » dit-il, aussitôt entré dans le petit salon où la jeune femme l'attendait, couchée sur sa chaise longue et occupée, comme elle faisait pour tuer le temps, à un ouvrage de broderie qui ne la forçait pas à lever les bras. « Tu as l'air en effet tout bouleversé, » répondit-elle. « Il y a de quoi, » reprit-il, « ce pauvre Maxime Fauriel ?»« Fauriel, » fit-elle, sans que sa voix traduisît le moindre saisissement. « Il y a eu un terrible accident d'automobile hier entre Nahuen et Francfort. »« Il est blessé ?» demanda-t-elle. Il y avait bien un peu d'inquiétude dans son accent, mais si peu. C'était la simple pitié qui s'éveille chez les plus indifférents devant le malheur humain. « Mort !» répondit, osa répondre Georges Coutereau, et ses yeux épiaient sur la physionomie de l'innocente une souffrance qui, naturellement, n'y parut pas. « Mort !» répéta-t-elle en secouant sa tête avec une grâce triste. « Et hier, il était si gai, si plein de projets !» Il me parlait de ses tableaux commencés, de sa candidature à l'Institut. Ce que c'est que de nous. Mais qu'as-tu, Georges, qu'as-tu ? Le misérable homme venait, en effet, de se laisser tomber sur une chaise, les mains sur ses yeux, et d'éclater en sanglots. Devant le résultat de son abominable stratagème, tous les fantômes de son insensée jalousie s'évanouissaient et son honneur se réveillait. Il éprouvait un tel mélange de soulagement et de honte, de délivrance et de remords, que ses nerfs le trahissaient, et incapable de jouer plus longtemps une comédie dont il sentait à cet instant tout le grotesque et tout l'infâme, il gémissait « Ce que j'ai, mon ami, ma chère, mon unique ami, c'est que je suis un malheureux, un indigne. J'ai que je viens d'avoir encore une de mes détestables crises de te soupçonner, toi, toi, toi !» Mais je te jure que c'est pour la dernière fois. Cette visite de cet homme hier, pendant mon absence, cette dépêche ensuite qui t'a adressée ce matin, tu la liras, tu comprendras. Enfin, j'ai été jaloux et j'ai voulu savoir si tu t'intéressais à lui et comment. Alors, j'ai imaginé de te parler comme j'ai fait. Je t'ai menti. Oh, pardonne-moi. Tu vois quelle honte j'ai d'avoir cédé à cet ignoble sentiment. « Je t'aime, Berthe, je t'aime, et c'est toute l'explication de ma folie. Car j'ai été fou, je ne le serai plus, je te le jure, jamais plus. »« Mais qu'as-tu toi-même ? Berthe ! Berthe ! Berthe !» À mesure que son mari parlait, racontant en phrases entrecoupées l'horrible action qu'il venait de commettre envers elle, le visage de la jeune femme avait exprimé une douleur grandissante. Elle s'était dressée sur son séant, ses grands yeux fixés sur ce bourreau martyr qui n'avait pas craint, malade comme elle était, de la soumettre à cette sinistre épreuve. De sa bouche entr'ouverte, à qui la respiration semblait manquer, elle dit seulement, avec une voix où passait déjà un râle,
« Tu as pu me faire cela ? Tu !»
Et portant les mains sur son cœur, qu'une intolérable souffrance poignait tout d'un coup, elle remua les lèvres sans pouvoir articuler la fin de sa phrase. Elle avait pâli affreusement. La terreur de l'agonie subite envahissait ses prunelles qui se révulsèrent. Sa tête se renversa, puis son buste. Elle était morte. Une fois de plus, Othello venait, dans son délire, de tuer Desdémone et d'apprendre en la tuant combien il était aimé.